Alors, comme vous le savez peut-être, mon ministère de pasteur jeunesse est un ministère itinérant où presque chaque week-end je vais d'église en église à la rencontre des jeunes dans les églises. Et d'où aussi ma présence parmi vous ce matin. Ce week-end, je suis en Lorraine. Et c'est vrai que j'ai plutôt l'habitude d'intervenir avec des jeunes de plus de 15 ans, mais il y a à peu près un mois de cela, j'étais aussi invité par une église pour intervenir dans un groupe de collégiens. Et la particularité dans cette église, c'était que ce groupe, pardon, était composé d'une moitié de jeunes qui avaient grandi habituellement dans l'église, qui avaient grandi dans une famille chrétienne et comme on dit, qui ont grandi entre deux pages de la Bible. Et l'autre moitié de ce groupe d'ados de cette église était composée de copains de collège, donc qui n'avaient pas l'habitude d'aller dimanche à l'église et qui ne connaissaient que très peu sur la Bible. Et les responsables de ce groupe d'ados, pour toucher justement ce deuxième public, m'ont demandé d'aborder cette question, la question suivante: qui est Dieu? Qui est Jésus pour toi? Une question à l'apparence simple, mais qui n'est finalement pas si évidente. Quand on sait justement le nombre de livres de théologie qui ont été écrits juste sur cette question. Et puis, il faut le dire, pas facile de répondre si rapidement à cette question, parce que j'avais même moins d'une heure, et je vais donner l'essentiel en peu de temps. Qui est Dieu? Et je crois qu'il faut l'avouer, il n'est pas possible de faire le tour de cette question à moins d'être Dieu soi-même. Ce qui n'est pas votre cas, ce qui n'est pas mon cas, bien sûr. Par contre, j'avais choisi un seul texte de la Bible qui, pour moi, en plus donnait une vérité centrale et essentielle sur Dieu. Alors, je ne sais pas quel texte vous choisiriez. Pour cela, beaucoup de textes pourraient bien sûr être choisis, après tout, pour répondre à cette question. D'ailleurs, toute la Bible, finalement, nous parle de Dieu. On ne va pas lire toute la Bible aujourd'hui, mais je vous invite quand même à la lire en entier. Peut-être que vous pensez à Jean 3,16. C'est vrai que souvent, c'est le verset qu'on utilise, hein, qui est un verset fort, mais je vois que ce n'est pas celui-là, mais c'est pas mal aussi, Jean 14, verset 6. Jean 3,16, je rappelle juste, hein, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Un beau verset, un verset important, mais ce n'est pas ce texte que j'avais choisi. C'est un texte dans la lettre de Paul aux Romains, au chapitre 5. Et si j'avais choisi ce texte, c'est parce qu'il met justement l'accent sur une vérité centrale sur qui est Dieu. Et c'est ce que nous allons voir ensemble ce matin. Ce texte, nous allons le lire. Et ce que nous allons voir ensemble ce matin, c'est que Dieu est un Dieu de réconciliation. Et s'il y a bien quelque chose que j'aimerais que vous reteniez ce matin, c'est cela. Dieu est le Dieu de la réconciliation. De quelle réconciliation s'agit-il? Et comment cette réconciliation est-elle possible? C'est ce que nous lisons maintenant dans Romains 5, versets 8 à 11. Romains chapitre 5, à partir du verset 8. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Puisque nous sommes maintenant considérés comme justes grâce à son sang, nous serons à bien plus forte raison sauvés par lui de la colère de Dieu. En effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu grâce à la mort de son Fils, lorsque nous étions ses ennemis, nous serons à bien plus forte raison sauvés par sa vie maintenant que nous sommes réconciliés. Bien plus, nous plaçons notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons reçu la réconciliation. Nous avons lu, nous avons été réconciliés avec Dieu. Voici ce que nous avons lu. Voici une parole de vie à retenir. Et hier, j'étais donc avec les jeunes et j'avais à cœur qu'on voit ensemble le film La Cabane. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, en tout cas, je vous encourage à le voir, ce film, qui n'est pas en salle, qui est seulement On peut le voir par DVD. Et ce film, d'ailleurs, La Cabane, est tiré d'un livre qui a été un best-seller et qui porte le même nom, La Cabane. Et le livre, enfin, le film respecte le livre. Et même si ce film a quelques défauts, c'est normal, son message central, c'est de présenter Dieu comme voulant la réconciliation entre lui et les hommes et le monde. Alors, je ne veux pas vous dévoiler la fin du film, rassurez-vous. Je ne vais pas vous en dire beaucoup, mais quand même, je vais quand même donner quelques éléments. En tout cas, vous donner envie. C'est l'histoire d'un père de famille qui perd sa famille tragiquement. Et alors qu'il n'avait pas une foi déjà très profonde, voilà que cet homme s'enfonce encore plus dans le doute, dans la souffrance, et il est rongé par l'incompréhension de la mort de sa fille. Mais voilà que Dieu va se révéler à lui, et il va justement le surprendre d'une manière auquel il ne s'attendait pas. Dieu va se révéler à lui, justement pour lui montrer qu'il est le Dieu de la réconciliation. Mais le film, ce n'est pas la Bible. Ce n'est pas exactement, en tout cas, c'est le texte, enfin, ce qui nous intéresse maintenant, c'est le texte de Romains 5. C'est pour ça que je ne veux pas en parler plus de ce film. Je vous invite juste à le voir. Ce qui nous intéresse, c'est ce qu'on vient de lire. Mais de quelle réconciliation s'agit-il ? Alors, pour bien comprendre un mot dans la Bible, je ne sais pas si vous le faites, il n'est pas forcément nécessaire de bien connaître, de connaître l'hébreu et le grec, pour comprendre un mot. On a parfois juste besoin de voir dans quelle autre circonstance il apparaît ailleurs dans la Bible. Et j'aimerais justement vous lire juste quelques versets dans la première lettre de Corinthiens au chapitre 7 où le mot réconciliation apparaît dans un autre contexte. Et je trouve que ça nous permet de bien comprendre de quelle réconciliation il s'agit. 1 Corinthiens 7, verset 10. À ceux qui sont mariés, j'adresse, donc c'est Paul qui parle, non pas moi mais le Seigneur, cette instruction. Que la femme ne se sépare pas de son mari. Si elle est séparée de lui, qu'elle reste sans se remarier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne divorce pas de sa femme. Alors, je ne vais pas parler du mariage, spécifiquement, mais je trouve qu'ici, c'est fort. Il s'agit d'une réconciliation après un divorce, après une séparation entre une femme et son mari. Ce n'est pas une petite réconciliation comme dans les cours d'école. Alors, vous savez, quand j'étais enseignant, vous ne savez peut-être pas, j'étais enseignant avant, et je voyais souvent des enfants se faire la tête. Il faut le dire souvent, hein. Pas toujours, hein, mais souvent pour pas grand-chose. Et puis le lendemain, il revenait, il me disait « Voilà, on est réconciliés, on ne se fait plus la tête. » Non. Ici, la réconciliation, c'est plus fort que ça. C'est une réconciliation qui implique beaucoup plus. C'est fort, une réconciliation après un divorce. Et c'est rare, et ça arrive malheureusement que rarement. Et je ne sais pas si vous connaissez beaucoup de couples qui sont passés par la case divorce, et qui sont revenus après l'un vers l'autre pour se réconcilier et vivre ensemble. C'est extrêmement rare. Mais quelque part, c'est de ça dont il est question. Avec Dieu, c'est un peu pareil. Se réconcilier avec lui, c'est bien plus que croire intellectuellement qu'il pourrait exister quelque part là-haut dans le ciel, et continuer finalement sa vie un peu comme si de rien n'était. Dieu veut notre réconciliation avec lui. Cela signifie que notre vie doit changer. Cela signifie un retour vers lui. Cela signifie une nouvelle vie avec lui. Où lui a la première place, avant toute autre chose. C'est une vie de communion avec lui, en relation avec lui tous les jours. Dieu nous a réconciliés dans un seul but. Retrouver la relation qu'on avait perdue. Retrouver cette relation, finalement, que Dieu avait avec le premier homme et la première femme dans le jardin au tout début de l'humanité, c'est retrouver cette relation. Et d'ailleurs, toute la Bible, du début jusqu'à la fin, nous montre un Dieu qui recherche constamment la réconciliation. Un Dieu qui fait constamment le premier pas vers l'homme. Avec Noé, il fait alliance après le déluge. Avec Abraham, il va vers lui pour le bénir, et il veut aussi bénir à travers lui toutes les familles de la terre, c'est ce qu'on apprend. Avec Moïse, c'est lui qui fait le premier pas pour libérer son peuple. Avec les prophètes, Dieu reste fidèle, et on le voit prêt à chaque fois à faire sortir son peuple de l'impasse dans lequel le peuple s'est mis. Dieu fait le premier pas. Dieu propose cette réconciliation. Et on voit depuis le début de la Bible, le projet de réconciliation se dérouler petit à petit, jusqu'à son parfait accomplissement par Jésus, avec Jésus. Mais alors, comment le Dieu de la réconciliation nous a-t-il pleinement réconciliés avec lui ? Le texte de Romains nous le dit. Nous avons été réconciliés avec Dieu grâce à la mort de son Fils. Verset 10. Par Jésus, maintenant, nous avons la réconciliation. Verset 11. La mort de Jésus, que nous allons célébrer cette semaine, dont on va se souvenir, est le seul moyen qui nous a été donné pour être pleinement réconciliés. Et non seulement réconciliés, mais aussi sauvés. Et il y a un événement autour de la mort de Jésus qui, selon moi, symbolise très bien cette réconciliation. Au moment même, on le lit dans la Bible, où Jésus rendit l'esprit, on apprend dans Matthieu, Marc et Luc que le voile du temple de Jérusalem se déchire de haut en bas en Dieu. Et je crois qu'il est important de dire que ce lieu, le voile du temple, était ce qui séparait le lieu très saint, où demeurait symboliquement dans le temple la présence de Dieu du reste du temple. Et je crois qu'il est bon de rappeler que ce lieu, le temple de Jérusalem, n'était accessible seulement une fois par an, et en plus seulement par le grand prêtre, qui lui-même devait scrupuleusement être pur, se purifier. On rentrait pas n'importe comment, on passait pas n'importe comment derrière ce voile qui séparait la présence du Dieu du reste du temple. Donc quand le voile s'est déchiré, cette séparation entre Dieu et les hommes qui se déchirait aussi. Et je trouve que c'est fort. Alors on ne sait pas si le voile du temple de Jérusalem a été recousu, mais je crois que spirituellement il n'a jamais été recousu. Désormais, n'importe qui peut avoir accès à cette présence de Dieu par la mort de Jésus. Et tout cela est bien expliqué aussi plus loin dans la Bible, en hébreu, dans la lettre aux Hébreux au chapitre 10. Je lis. « Ainsi, frères et sœurs, nous avons par le sang de Jésus l'assurance d'un libre accès au sanctuaire. Cette route nouvelle et vivante, il l'a inaugurée par nous, pour nous, au travers du voile, c'est-à-dire de son propre corps. » De plus, nous avons un souverain prêtre établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, une foi inébranlable, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Oui, seul le sacrifice de Jésus nous permet d'être pleinement réconciliés avec le Père. Mais pourquoi a-t-il fait cela? Pour quelle raison Christ est-il mort pour nous? La réponse est simple. On l'a déjà chanté, on l'a déjà entendu dans les chants, en première partie du culte. Pour quelle raison ? Par amour. Et je ne sais pas si vous connaissez le livre de Gary Chapman sur les langages de l'amour. C'est un livre d'un pasteur qui est même connu dans les milieux laïcs, en relations conjugales. Et on y apprend qu'il existe 5 langages qu'on utilise pour exprimer l'amour, nous les êtres humains. Les paroles valorisantes, les encouragements, les mots d'amour, les moments de qualité, passés l'un ensemble avec l'autre, les cadeaux, les services rendus, le toucher physique aussi. Et pour Dieu, son langage d'amour, la manière qu'il a choisi pour nous prouver son amour, c'est de donner son Fils pour qu'il meure à la croix. Et en plus, ce que je trouve ce qui est beau ici dans le texte de Romains 5, le texte nous invite à placer notre fierté en Dieu pour cela. Et la version de Louis II utilise un mot encore plus fort. Nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. C'est une idée formidable que nous devons retenir. C'est une réalité formidable que nous devons expérimenter et qui doit faire notre fierté. Comme le texte le dit, nous avons un Père céleste qui veut rétablir le lien d'amour avec ses enfants. Dieu n'attend qu'une seule chose de tous les hommes et les femmes, être réconciliés avec lui. Et pour recevoir cette réconciliation, Il n'est pas d'abord question ici de choses à faire ou ne pas faire. Nous n'avons d'ailleurs rien à faire pour mériter ce cadeau, puisque tout a déjà été accompli pour cela. Jésus est mort pour permettre cette réconciliation. Alors pour être réconciliés avec notre Père Céleste, nous avons juste besoin de recevoir cette réconciliation comme un cadeau que Dieu nous fait. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais personne, généralement, lorsqu'il reçoit un cadeau qu'on lui offre, ne le met de côté et passe à autre chose comme si de rien n'était. Au contraire, généralement, on se réjouit de recevoir un cadeau et puis on l'ouvre et on en profite pleinement de ce cadeau. Avec la réconciliation que Dieu nous offre, c'est un peu pareil. Nous sommes appelés à nous arrêter pour entendre l'appel de Dieu. Nous sommes appelés à recevoir et accepter pleinement ce pardon et à nous tourner vers lui pour vivre cette vie de réconciliation, pleinement réconciliée avec Dieu et unie avec lui, sans jamais couper cette relation qui est enfin rétablie. C'est merveilleux, cette promesse de Dieu pour nous. Alors je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais on aimerait bien s'arrêter là et n'entendre que ce message d'amour que Dieu a pour nous. Mais je crois que si on s'arrêtait là, on passerait à côté d'une réalité que ce texte nous rappelle aussi, et qu'il est aussi important d'entendre. Quand j'étais intervenu, donc auprès de ce groupe d'ados dans cette église, il y a un mois à peu près de cela, il y a à un moment donné une jeune fille qui m'a interpellé. Et elle m'a dit, « Mais je ne suis pas fâchée avec Dieu. Pourquoi j'aurais besoin de réconciliation avec lui ?» Je trouvais que c'était intéressant cette remarque. Mais quelque part, elle n'avait pas bien compris que c'est Dieu qui est fâché contre nous, pour reprendre son expression. Et pour être plus exact, il faudrait parler de la colère de Dieu, pour reprendre aussi l'expression ici, dans la lettre de Romains, au chapitre 5. Dieu est en colère. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je dois avouer que parfois, j'aimerais avoir une gomme spirituelle. Vous savez, pour effacer des mots dans la Bible, tout ce qui me dérange, tout ce qui ne me plaît pas, ce qui me semble un peu politiquement incorrect. Et s'il y avait un mot que j'aimerais gommer dans ce texte, c'est le mot « colère » de Dieu. Moi, je préfère entendre parler seulement d'un Dieu plein d'amour, plutôt qu'un Dieu de colère. Et le titre que j'ai choisi pour ce week-end, je le rappelle, c'était « Et si Dieu te surprenait encore ?» J'aimerais vous demander, ça vous surprend que Dieu soit associé à la colère? Peut-être. Alors peut-être que vous allez me dire « Ouais, mais c'est peut-être un problème de traduction. » Alors, vous pouvez vérifier dans vos Bibles. Moi, j'ai vérifié dans toutes les versions que moi j'ai dans ma maison. C'est toujours le mot « colère » qui est présent. Alors peut-être que vous allez me dire « Oui, mais c'est un des seuls endroits de la Bible où le mot colère est présent. » Eh bien, pas du tout. Le mot colère apparaît plus de 30 fois dans le Nouveau Testament. Et environ une fois sur deux, il est associé à Dieu. Un exemple pour vous prouver. On connaît facilement Jean 3,16, je l'ai lu avant. Mais voici ce que dit Jésus un peu plus loin, au verset 36. Donc dans le même discours, celui qui croit au Fils a la vie éternelle, ok. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu reste au contraire sur lui. C'est Jésus qui dit ça. D'ailleurs, Jésus a éprouvé aussi la colère. Face aux pharisiens avant de guérir un homme, voici ce qu'on apprend en Marc, chapitre 3, verset 5. Jésus promena sur eux un regard de colère, et peiné de l'endurcissement de leur cœur, donc du cœur des pharisiens, il dit à l'homme, « Tends ta main. » Il la tendit et sa main fut guérie. Et là, je ne vous ai pas parlé de l'Ancien Testament. Il y a plusieurs mots pour désigner la colère en hébreu. Et le mot plus courant, « af », est utilisé plus de 200 fois. Ouais. Et il y en a d'autres encore. Et il est utilisé souvent, pas toujours, pour parler de la colère de Dieu. On n'aime pas entendre, il faut l'avouer, que Dieu est en colère. Et pourtant, c'est une réalité biblique. La Bible en parle, et elle en parle abondamment, presque autant que l'amour de Dieu. voir Dieu en colère, c'est une idée difficile à accepter. Il faut l'avouer, c'est pas très à la mode, c'est pas très vendeur. Pour beaucoup, c'est même, cette idée, elle est même incompatible avec le Dieu d'amour qui est aussi présenté dans les Écritures. D'ailleurs, le film que nous avons vu hier met plus l'accent sur la colère du père qui a perdu sa fille que sur la colère de Dieu. Le film, à tort je crois, montre un Dieu qui reste étranger à tout sentiment de colère. Ce n'est pas ce que la Bible dit. En tout cas, pas exactement de la même manière. Et il est même question dans le livre des Lamentations de la violente colère de Dieu. Waouh, ça fait mal aux oreilles, hein ? On n'aime pas trop entendre cela. C'est vrai. Même dans les églises, on hésite de plus en plus, j'ai l'impression, à parler du péché. À parler aussi du cadeau de la repentance. On en parle moins. Et puis, on évite tout sentiment de culpabilité. Et je trouve que c'est bien dommage, parce qu'il y a une mauvaise culpabilité, c'est vrai, mais il y a aussi une bonne culpabilité. La bonne culpabilité, c'est l'œuvre de l'Esprit-Saint en nous, dans nos cœurs, qui nous convainc de péché et qui nous pousse à nous repentir, c'est-à-dire à confesser, à reconnaître nos fautes et à nous détourner de nos fautes pour surtout nous tourner vers Dieu et pas rester enfermés dans la honte. Ça, c'est la bonne culpabilité, nous tourner vers Dieu et se reconnaître coupable. Oui, Dieu est en colère. Et dès lors, tout l'enjeu est de bien comprendre ce que c'est cette colère de Dieu. Parce que ce n'est pas de n'importe quelle colère dont il s'agit quand même. La colère, c'est vrai, est une émotion qui peut s'exprimer de différentes manières. Là aussi d'une mauvaise manière, mais aussi d'une bonne manière. Une mauvaise colère, c'est quoi ? C'est lorsqu'on réagit face à une frustration, face à une insatisfaction, hein, on n'est pas content, on n'a pas ce qu'on veut, ou par impatience. Je pense qu'on a tous ressenti cette colère face à un feu qui devient rouge lorsqu'on est en retard, hein, à un rendez-vous. Voilà, il y a la colère qui monte. Ça, c'est la mauvaise colère. Par contre, la colère de Dieu, ce n'est pas cela. C'est au contraire une bonne colère. Une colère saine, sainte et parfaite, parce que Dieu est parfait. Et dans la Bible, la colère de Dieu est avant tout le refus du péché et du mal. Dieu déteste le mal. Il a en horreur notre péché et il y répond dans sa colère. Et pour comprendre justement la colère, je crois que même si parfois on a du mal, il faut mettre ensemble l'amour de Dieu et la colère de Dieu. Cela peut nous paraître impossible parce que c'est vrai que nous avons tellement de mal dans nos visions des choses à parfois faire coïncider amour et colère. Et pourtant, moi j'ai l'impression que les personnes pour qui j'ai parfois le plus de colère, ce sont aussi les personnes que j'aime le plus. Combien de fois je suis en colère pour mes enfants, quand je les vois se chamailler, se faire du mal entre eux, aussi nous désobéir, nous les parents. Et si je réagis comme ça, c'est parce que je les aime aussi. Mais à la différence de Dieu, moi je réagis pas toujours comme il le faut. Et il m'arrive, comme tout le monde, de gérer mal ma colère. Alors que lui, Dieu, dans son amour, il peut exprimer sa colère et le faire sans lui-même pécher, sans lui-même faire le mal. Parce que Paul nous dit dans la première lettre aux Thessaloniciens, Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est en colère. Et il y a un deuxième mot ici aussi du coup que j'aimerais bien effacer dans ce texte de Romains que nous avons lu. Je ne sais pas si ça vous a aussi frappé. Il y a un deuxième mot que je dois avouer. Au fond de moi, il y a un petit réflexe que j'aimerais bien l'effacer. J'aime pas l'entendre. C'est le mot « ennemi ». Là aussi, il n'y a pas de problème de traduction. Si Dieu nous appelle à la réconciliation, c'est que nous étions ses ennemis. C'est ce qu'on a lu. Le problème vient de nous et non pas de Dieu. Et Paul, je pense qu'il faut le rappeler, c'est celui qui est l'auteur de cette lettre aux Romains. Et il sait très bien ce que ça signifie d'être l'ennemi de Dieu. Puisqu'il était un bon pharisien, c'est-à-dire un bon religieux bien zélé, mais un véritable persécuteur de l'Église de Jésus-Christ avant qu'il se convertisse. Avant qu'il se convertisse, il était un ennemi de Dieu, dans tous les sens du terme. Et Paul explique mieux ce que ça signifie être ennemi de Dieu. Aux Colossiens, voici ce qu'il leur dit. « Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis de Dieu par vos pensées et par vos œuvres mauvaises, il vous a maintenant réconciliés. » Pour recevoir cette réconciliation que Dieu nous offre par la mort de Jésus-Christ, tout homme doit d'abord reconnaître sa première identité d'ennemi de Dieu. C'est fort, hein ? Par nos pensées, par nos mauvaises œuvres, nous nous plaçons comme des étrangers à Dieu, à cause de notre haine et notre rejet de Dieu. Nous ne devons pas nier la gravité de l'offense contre Dieu. Nous devons plaider coupable, reconnaître notre culpabilité. Nous mériterions normalement cette colère de Dieu. Et je crois que c'est important de ne pas l'oublier. Mais dans sa grâce, dans son amour, nous sommes considérés maintenant comme justes grâce au sang de Jésus qui a subi à notre place les conséquences de notre ancienne identité d'ennemi. Désormais, nous tous qui avons confessé Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous sommes réconciliés. Nous ne sommes plus ennemis. Et c'est dès maintenant que nous l'avons, comme nous l'avons lu, notre identité est celle d'enfants réconciliés avec leur Père Céleste. Alors pour terminer, j'aimerais juste vous laisser ces quelques versets comme parole d'envoi. Je lis dans la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, le chapitre 5, les versets 17 à 20. De Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ. Il réconciliait le monde avec lui-même en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes. Il a mis en nous les paroles de la réconciliation. Nous sommes donc des ambassadeurs de Christ, pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. Nous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Si ce matin, tu n'es pas en Christ, et je m'adresse à ceux qui n'ont pas encore fait cette démarche de s'engager à suivre Jésus, de lui donner sa vie. Et je m'adresse peut-être plus spécifiquement aux jeunes, mais pas seulement. Je t'en supplie, au nom du Christ, sois réconcilié avec ton Dieu. Sois réconcilié avec Dieu. Pourquoi attendre et reporter à plus tard une démarche que tu pourrais faire aujourd'hui ? C'est maintenant, c'est une réalité qui peut se vivre maintenant. Dieu te permet de te réconcilier avec lui dès aujourd'hui, parce que Jésus a tout accompli à la croix pour toi. Tu dois juste reconnaître que jusqu'à présent, c'est vrai, tu étais un ennemi de Dieu et te tourner vers lui. Tu dois juste accepter ce cadeau du sacrifice de Jésus pour toi. Tu dois juste saisir cette réconciliation et vivre cette réconciliation en aimant ton Père Céleste, en lui obéissant, en vivant cette relation avec lui chaque jour. Et en plus, grâce au Saint-Esprit qu'il t'a donné, qu'il veut te donner pour être présent dans ta vie. Dieu n'attend qu'une seule chose de toi. Sois réconcilié avec lui. Et ce matin, j'aimerais m'adresser aussi à ceux qui sont déjà en Christ. Ces paroles ce matin sont aussi pour vous, ils sont aussi pour nous. Vous l'avez entendu, nous avons reçu un ministère de réconciliation. Ne l'oublions pas, ne l'oubliez pas. Et ces paroles, vous pouvez les mettre en pratique dans vos familles, dans votre quotidien, sur votre lieu de travail, auprès de vos voisins, parce que nous sommes des ambassadeurs de Christ. Je trouve que c'est une magnifique expression. À travers nous, à travers son Église, Dieu adresse son appel de réconciliation au monde. On a un rôle magnifique à jouer. Mais j'aimerais aussi m'adresser à ceux qui sont en Christ et qui ont peut-être l'impression, et je dis bien l'impression, de ne pas être pleinement réconcilié avec Dieu. Parfois même chrétien, on ne se sent pas réconcilié à 100% avec Dieu. Pourquoi ? Pour quelle raison ? Parce que parfois, on peut cultiver des pensées contre Dieu. Évidemment, Dieu n'a jamais rien fait de mal. Il n'a pas besoin d'aucun pardon de notre part. Mais parfois, nous cultivons des pensées de colère contre lui, car il n'a pas fait ce que nous voulions qu'il fasse exactement comme nous voulions qu'il le fasse. Parce qu'il n'a pas répondu comme nous voulions qu'il réponde à nos prières. Peut-être qu'on ne se sent pas toujours réconcilié à 100%. Tout simplement aussi parce qu'il y a un péché non confessé, un péché récurrent dans nos vies, qui pourrit notre relation avec Dieu. Alors n'oublions pas que nous pouvons toujours saisir à nouveau, par grâce, ce cadeau de la repentance que Dieu nous donne. À tout moment, nous pouvons revenir à lui. Et nous sommes appelés à rester fondés et enracinés dans cet amour et dans l'obéissance à Dieu. Peut-être que certains parmi nous ont tout simplement encore une mauvaise image de Dieu, ou une image incomplète. Parfois, nous n'arrivons pas à marcher dans la confiance et la réconciliation avec Dieu, à cause de toutes sortes de mensonges que nous avons cru aussi à son sujet. Nous devons accepter que nous sommes une nouvelle créature, que notre identité n'est plus celle d'ennemi de Dieu, mais d'être enfant de Dieu lorsqu'on est en Christ. Nous devons accepter avec joie, à nouveau peut-être, cette parole de vérité qui dit que Dieu est un Dieu de réconciliation. Je vais prier. Seigneur, c'est vrai que tu nous appelles à la croix. Et je vais me rappeler ces paroles de Jésus qui disent « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Seigneur, tu nous as tellement aimés, tu nous as prouvé ton amour en te livrant en sacrifice pour nous. Seigneur, mais pardon, parce que combien de fois nous agissons, nous pensons comme tes ennemis. Et merci parce que tu veux nous accueillir comme tes enfants. Tu veux nous donner cette nouvelle identité. Seigneur, pardon parce que nous t'avons poussé à bout combien de fois. Pardon parce que nous avons combien de fois excité ta colère. Seigneur, nous reconnaissons que nous mériterions la peine éternelle, d'être totalement séparés de toi. Mais merci, parce que par ton amour, par Jésus, nous pouvons nous approcher librement avec assurance du trône de la grâce. Seigneur, que chacun de nous puisse pleinement saisir cette réconciliation et la vivre jour après jour. Une vie d'obéissance, mais d'amour, en communion, en pleine communion avec toi, jour après jour.